un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Delphine Jaffet s'entretient avec Didier Deninx, une émission enregistrée en 2014.
À voix nue. Ce soir encore, Delphine Jaffet rencontre Didier Deninx. Tout de suite, au cœur de l'image. Bonsoir Didier Deninx.
Bonsoir.
Pour ce dernier entretien, j'aimerais que nous revenions sur votre famille de cœur, la famille littéraire et cinématographique qui vous a accompagné et nourri toute votre vie. Mais peut-être que pour commencer, on pourrait parler de l'implantation du théâtre de la Commune en 1960, de ce que ça vous a apporté à vous et à votre génération, la manière dont ça vous a ouvert un univers.
Oui, il y a un théâtre qui s'est implanté en pleine banlieue. C'était une banlieue grise, une banlieue où il y avait le couvre-feu, hein, les 3-8, c'est une sorte de couvre-feu civil comme ça. Et un jour, il y a eu un théâtre qui s'est ouvert après un festival. Il y avait un festival où il y avait des pièces de théâtre qui étaient montées dans un gymnase, comme ça. Et après, il y a eu la salle des fêtes a été transformée en théâtre. Alors pourquoi Aubervilliers et le théâtre de la Commune? Les gens le savent assez peu, mais il y a eu un très très grand homme de théâtre qui est né à Aubervilliers, qui s'appelait Firmin Gémier, et qui est l'inventeur du théâtre national populaire. Tout le monde pense que c'est Villars, et non, Firmin Gémier a inventé le TNP avant la guerre de 14, et il a fait un théâtre qui était un théâtre itinérant, comme un cirque. Donc il avait des gros camions avec des remorques, avec des loges, et ainsi de suite, et il allait monter des pièces de Molière, de Shakespeare, à travers toute la France, comme ça. Et donc après, Villars s'est inspiré de l'œuvre de Gémier pour faire l'aventure d'Avignon. Et donc c'est ça, c'est en appui sur cette histoire du théâtre national populaire qui est né ici à Aubervilliers que l'adjoint à la culture de l'époque qui s'appelait Jacques Ralite a réussi à imposer la naissance d'un théâtre de la décentralisation sans savoir que ça allait modifier la vie de tout un tas de jeunes gens, de jeunes filles de cette ville. Parce que d'un seul coup on avait un endroit qui était ouvert la nuit. Un endroit où les gens se rassemblaient, non pas pour travailler, mais pour s'amuser, pour applaudir. Un endroit où les gens se maquillaient, où il y avait des décors, où il y avait toute une série de choses. Et nous, on était ados, on avait 13, 12, 13, 14 ans. On se disait, mais il faut rentrer dans cette boîte magique. Et on a commencé à aller là. Et il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Donc des pièces de théâtre, mais aussi des films. Il y a des réalisateurs qui venaient pendant une semaine. Joseph Losey s'est pointé une semaine. Tous les soirs de la semaine, il venait commenter ses films. Un coup, j'ai assisté à quelque chose qui m'a bouleversé. Un débat pendant 2 heures passionné entre Jean-Luc Godard et Renoir, comme ça, là, juste à côté de chez moi. Et à un moment, il y a un copain qui déchirait les tickets, qui plaçait comme ça, et qui m'a filé son boulot quelques fois. Donc, de temps en temps, je pouvais voir les spectacles gratuitement. Et je me suis retrouvé dans un spectacle, Jacques Brel sur scène. Et ensuite, j'étais dans les coulisses et je suis resté pendant 2 heures à regarder Jacques Brel en train de discuter avec les gens qui étaient autour, après le spectacle et tout. Donc, on glane toute une série de choses. Donc, moi, ça m'a fait découvrir un autre univers. Et surtout, ça vous met dans l'idée que des gens travaillent en s'amusant. Que la lumière existe comme ça et qu'il y a peut-être des petites portes qui vous permettent d'accéder à ce monde. Donc voilà, c'est ce que ça a créé. Et quand je vois tous les copains et copines de cette époque-là, on venait quand même, on descendait des cités à 40 ou 50 pour aller au théâtre. Il y avait des organisations culturelles qui vendaient des places de théâtre au porte-à-porte dans les cités d'Aubervilliers. Enfin, c'est une époque de fou. Après, quand je suis devenu animateur de rue à Aubervilliers, j'ai fait ça. J'ai fait venir des troupes de théâtre, le Welfare Théâtre de New York et tout, qui a sillonné toutes les cités, qui jouait sur les parkings. Donc voilà, ça modifie votre vie, ça vous fait découvrir toute une série de choses, et ça vous donne de l'exigence. Alors je crois pas que c'était le but, c'était la décentralisation. Je pense pas que le but que ça signait les politiques quand ils faisaient ça, c'était de bouleverser, de faire la révolution dans les vies individuelles comme ça. Mais ça a été le résultat.
Dans votre adolescence, Didier Denac, vous lisez aussi beaucoup, beaucoup de romans noirs, de textes sur Alice, on en a parlé, et vous avez découvert Manchette assez tôt. Oui. De quelle manière Manchette, l'écriture de Manchette, vous a-t-elle influencé?
Ben, c'était le choc hein, de deux livres, un premier qui s'appelle « L'affaire de Gustreau », par le fait que d'un seul coup, il y avait un interdit de la République gaulliste qui était l'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Ben Barka par la police française et par les services secrets marocains. D'un seul coup, c'était le moteur d'une histoire. D'un seul coup, il brisait ce tabou et il montrait que comment la littérature noire pouvait prendre ces risques-là. Hein, qui étaient des risques un petit peu politiques comme ça, et c'était ce risque était pris avec un risque littéraire, c'est-à-dire une écriture de roman noir qu'on retrouvait nulle part ailleurs, avec une véritable influence des expériences des Éditions de Minuit, du nouveau roman et ainsi de suite, donc avec des techniques hyper réalistes de choses comme ça, donc un travail sur la phrase. Donc il y avait ça, il y avait deux révolutions en même temps dans l'écriture de Manchette, puis ensuite très rapidement il y a eu le Petit Bleu de la côte ouest. Donc le Petit Bleu, c'est un blues qu'un personnage écoute dans sa voiture. Mais là, moi, j'avais été scotché, c'est-à-dire qu'il publie ça en 74. Et la scène, le premier chapitre, c'est un personnage qui est dans une Mercedes, qui roule à 170 autour de Paris. Il a bu deux ou trois whisky, il écoute un Petit Bleu de la côte ouest sur son autoradio, et il tourne. Et la forme du roman à la forme que vient de prendre Paris, puisque quelques mois avant, on a bouclé le périphérique. Et donc, c'est le premier personnage qui peut faire ça, c'est-à-dire faire une révolution autour de Paris. Et le personnage fait sa révolution autour de Paris par le périphérique et tout. Il a toutes les portes à sa disposition et il peut en prendre aucune. Donc, il fait des révolutions inutiles comme un écureuil dans une roue. Et donc ça, c'est il y a beaucoup d'écrivains qui se sont confrontés à la forme des villes hein, et donc là d'un seul coup on a clin d'œil à Gracq et ainsi de suite qui est là dans un roman noir, et c'est pas dit d'une manière pédante et tout, mais c'est évident. Et puis à la fin du roman, le personnage va tuer, va être en danger de mort, ça va être une hécatombe, et il va se retrouver dans la même situation, sur le même périphérique, avec le même whisky, la même Mercedes, il va tourner de la même manière. Et quand on regarde le premier chapitre et le deuxième chapitre, ça tourne comme ça, ça fait deux cercles les uns à côté des autres, et ça a la forme de la cassette qu'il ne cesse d'écouter. Donc, voilà, c'est d'un seul coup, c'est pour moi, c'est ça aussi la littérature. Il y a le style, il y a tout ça, mais ça fait partie du style. Et d'un seul coup, quand vous détectez ça à l'intérieur des romans, la manière dont c'est fabriqué et les enjeux qu'on peut considérer comme inutiles que mettent les écrivains dans les romans, ça les rend extrêmement, extrêmement pertinents, attachants. Puis on se dit, moi, je vais essayer de voir comment je peux trouver une manière de faire ça aussi. Et donc moi, ça a été le moteur, ça a été ça. Beaucoup d'autres lectures, mais Manchette, ça a été dans l'espace du roman noir. Et puis en plus, les personnages qu'on avait chez Manchette, c'est des personnages, mais chez Fajardi, chez Vautrin, chez Jean-François Villard. Hein, à cette époque-là, c'était tous les écrivains qui arrivaient comme ça. On se disait que ces personnages-là, on les connaissait. On savait ce qu'ils avaient dans la tête. On pouvait voir comment ils allaient réagir. Donc on se retrouvait en pays de connaissance dans ces romans-là. C'est-à-dire que c'était des romans qui parlaient des marges, des exclus, des invisibles, et nous, on savait comment ils fonctionnaient, quoi.
Est-ce que d'autres auteurs qui ont porté une attention précise au réel, notamment donc le roman réaliste hein, du 19e siècle, vous ont aussi marqué dans la littérature française
Oui,
lesquels en particulier?
Il y a eu les lectures, que ce soit Balzac, c'est pour moi un incontournable, Hugo, c'est un incontournable, mais après, il y a eu des gens qu'on lit plus ou qu'on va peut-être recommencer à lire, parce qu'il y a les anniversaires, donc à chaque fois qu'il y a les anniversaires, ça fait ressortir des textes. Et donc, par exemple, moi j'avais lu les Thibault, par exemple, tout autour de la guerre de 14. La guerre de 14 m'a toujours intéressé, pour tout un tas de raisons, mais il y avait ça, donc c'était d'essayer de comprendre comment ça jouait. Tous les romans réalistes d'Aragon, hein, ce qu'il appelle le cycle du monde réel, les cloches de Bâle, voyageurs de l'impérial, et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil, c'est des interrogations sur l'histoire. Et on retourne aussi avec Aragon sur le fait qu'il raconte avec des personnages une période historique, mais en même temps il résout ses problèmes, puisque le jour où il part à la guerre en 1917, sa sœur l'accompagne et sa sœur lui dit, avant qu'il prenne le train, qu'elle n'est pas sa sœur mais sa mère, et que son père est l'ancien préfet de police de Paris et qui a écrasé la commune de Lyon en 1871. Donc, dans ce cycle du monde réel, Aragon résout ses problèmes personnels, familiaux, et ainsi de suite. C'est une quête sur sa propre identité, en même temps qu'il travaille sur l'histoire nationale au travers de ses personnages. Donc voilà, tout ça, voilà, c'est là-dedans que je puisse. Puis après, il y a l'immense vague des... Mais il y a Charles-Louis-Philippe qui est aussi tous les chaînons manquants, c'est-à-dire des gens qu'on ne lit plus aujourd'hui, mais qui sont entre le roman réaliste et puis le roman noir Charles-Louis-Philippe sur la prostitution, sur Paris, sur la nuit et tout. Donc on a tout un tas de gens comme ça. Après, l'oublié de la littérature française, Jean Amila qui deviendra, qui était Jean Mekert à la Collection Blanche et qui deviendra Jean Amila quand il publiera la série noire. Puis, l'immense vague des Steinbeck, des Hemingway, des Hammett, des Chandler, et ainsi de suite, et où je fais pas de différence entre Hemingway et Hammett, par exemple. Pour moi, ça martèle de la même manière, quoi.
Alors, le cinéma, Didier Denynx, a aussi occupé une grande place. On en a un petit peu parlé quand vous alliez au cinéma, quand vous étiez ouvrier imprimeur, et même avant. Alors, quels sont les cinéastes ou les films qui vous ont particulièrement impressionné à cette période-là, et même par la suite? Est-ce que vous avez retrouver ou continuer d'avoir cette émotion par rapport au film que vous pouvez voir?
Oui, il y a des films, mais là aussi c'est le grand mélange, hein. Je me souviens d'un film que je suis allé voir 3 4 fois à une période qui correspond pas du tout au reste. C'est La collectionneuse de Romère, quand il y a ce film-là qui paraît. Après, énorme déception, en allant voir Le Genou de Claire. Donc il y a toute une série de films comme ça. Après, comment le miracle d'un film comme Du côté droite, donc il y a ça, mais il y a la découverte de ces cinéastes américains comme Peckinpah, donc il y a ça, Bud Boetischer, donc il y a toute une série de choses. Mais moi, j'ai pas de théorie sur le cinéma. C'est vraiment à chaque fois, je prenais ce qui m'intéressait véritablement comme ça. Et puis des ovnis. Un film que j'ai vu il y a presque 40 ans maintenant et qui reste très 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 présent, qui s'appelait L'incinérateur de cadavres, qui était un film polonais absolument hors limite, d'un type qui fait la crémation des corps dans un cimetière comme ça. Il a une cheminée à lui et il va avoir une accession sociale extraordinaire à l'arrivée des nazis, parce qu'il va pouvoir avoir un énorme crématorium. Et donc un film absolument glaçant comme ça, donc des films qui s'appellent La Clepsydre, aussi tout le cinéma polonais de ces années-là, qui travaille le cataclysme qui a eu pour cadre la Pologne. Et donc ils interrogent par les moyens du cinéma le rapport à la mort, au temps, et ainsi de suite. Et puis récemment, mon plus, je vois pas mal de films, mais c'est assez rare que j'ai le même la la même violence dans les émotions. Ça m'est arrivé dans un film que j'ai dû voir 7-8 fois, ce qui m'arrive jamais, et c'est Tony Gatliff, que je considère véritablement comme un des plus grands cinéastes français. Et son film majeur pour moi, celui qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est Vengo, qui est une sorte de tragédie, non pas grecque, mais gitane, qui est un film d'une violence, d'une beauté, d'une humanité absolument incroyable, qui est un film musical sur le flamenco, et avec les plus grands artistes de flamenco. Il arrive à bâtir une intrigue avec un jeune garçon handicapé et tout. C'est un film, rien qu'à y penser, ça y est, je revois toutes les images. Donc voilà, c'est des choses comme ça, c'est-à-dire d'être au cinéma et d'être devant des films qui ne trichent pas, quoi.
Dans votre recueil de nouvelles En Marge, qui est dédié à votre père, en mémoire d'un homme en marge, il y a un texte souvenir rectangulaire qui est consacré au film que vous avez vu pendant votre enfance. Et vous regrettez dans ce texte que votre père n'ait pas vu Les Fraises sauvages de Bergman. C'était une passion que vous aviez en commun avec votre père, le cinéma.
Oui, lui, c'était les films noirs. Donc, le premier soir où est sorti Mélodie en sous-sol, on était avec Gabin et Delon au Cinoge. Je me rappelle même le Cinoge où on allait. Il habitait Saint-Denis, il y avait la rue de la République, et sur la rue de la République, il y avait 5 cinémas, la Renaissance, il y avait la Kermesse, tous ces trucs-là. Donc on allait vraiment, le cinéma était une activité hebdomadaire. Donc il y a ça, et puis ce regret, c'est tout simplement un jour, une nuit plutôt, on revenait des courses, je sais pas où, le Vincennes peut-être, donc il avait perdu un peu d'argent sur le champ de course, et puis avant de remonter chez lui, dans sa piôle, il allait faire un tour voir les potes au café du coin qui s'appelait le Braza, café tabac, et là il y avait les premières télés qui étaient là. Et moi, j'étais gamin, j'avais mon Vitel fraise ou un truc comme ça, ma grenadine, et je sirotais en regardant l'écran. Et d'un seul coup, j'ai vu une scène d'horreur. C'est-à-dire, j'ai vu un type qui était adossé en impair, qui était adossé à une horloge là, sur pied, et cette horloge n'avait pas d'aiguille. Il s'est retourné, et puis sur la rue pavée, il y a des chevaux qui sont arrivés avec derrière un corbillard. Et au moment où le corbillard a pris le virage et tout, les roues du corbillard ont crissé un petit peu, et le cercueil est tombé. Le couvercle glisse et sort une main. Et c'est un truc de terreur, c'est une image de terreur que j'ai eue, mais qui m'a poursuivi très 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 longtemps, et je ne savais pas d'où ça venait, j'avais cette image-là. Et un jour, je suis allé voir une rétrospective Bergman, et clac, je suis tombé sur cette image des fraises sauvages.
Alors, l'image, la photographie, le cinéma occupent une grande place dans vos textes, ou parce que une photographie va permettre de résoudre une énigme, ou parce que les films dont vous parlez permettent de contextualiser une époque. Et en ce qui concerne la photographie, Didier Denynx, vous avez collaboré avec le grand photographe Willy Ronis, notamment pour deux textes, À nous la vie, qui paraît en 96, et Belleville Ménilmontant en 99, qui paraît en 99. Alors comment avez-vous rencontré Willy Ronis? Comment s'est déroulée cette collaboration?
C'est très très simple. Hein. Un jour, Jocelyne rentre du travail, et puis il y avait quelqu'un qui avait fondé l'entreprise où elle travaillait.
Jocelyne, votre femme?
Oui, oui, Jocelyne, ma femme. J'ai du mal à dire ma. C'est ça qui me gêne dans Jocelyne, ma femme, c'est le mot ma. Et comment elle rentre, et puis elle dit, voilà, il y a le fondateur de l'association qui part, et il faudrait lui offrir un cadeau. Puis je savais qu'il aimait la photo, je dis, bah, pourquoi pas une photo de Willy Ronis. Donc j'ai tapé sur le Minitel, Willy Ronis, Paris. Et aussitôt, j'ai eu 20 rue de Lagny, numéro de téléphone. Donc j'ai téléphoné, et puis il y a un monsieur qui a décroché. Je dis, pourrais-je parler à monsieur Guglioni? Elle me dit, c'est moi. Je dis, voilà, je voudrais vous acheter une photo, comment on fait? Elle me dit, voilà mon adresse, vous venez, on prend rendez-vous. Et donc je suis allé, j'ai rencontré Guglioni pour choisir cette photo. Et qui est une photo d'Aubervilliers, qui est une photo absolument magnifique d'une cour avec des enfants qui font la ronde comme ça. Et il y a une grille juste devant avec des ombres qui se contredisent. On ne comprend pas comment la photo a été prise. Et avant de partir, je venais de publier un tout petit recueil de textes autobiographiques, il y en a assez peu, qui s'appelait Quartier du Globe. Et j'avais publié ça à Montreuil, aux éditions Folie d'encre de la librairie de Montreuil, de Jean-Marie Ozanne. Et je lui ai laissé ça. Je vais laisser le bouquin comme ça avant de partir. Et il m'a rappelé le lendemain. Et il y avait une nouvelle qui l'avait énormément touché. Il me dit, il faut qu'on se voit, qu'on en parle. Et il m'a invité à déjeuner. Donc on a déjeuné ensemble. Et puis à partir de là, on ne s'est pas quitté jusqu'à sa disparition. Et donc il y a eu tout un tas d'aventures. Mais ça s'est fait de manière aussi tranquille que ça. Et après, il m'a emmené sur les traces de ses reportages. Il m'a montré où il avait photographié. Il m'a expliqué tout son travail sur telle et telle photo. Et il m'a sorti toutes ses archives. On a passé des heures et des heures à tourner autour de ses photos, de ses carnets. Donc il m'a raconté des milliers de choses sur ses photos, quoi. Donc c'était passionnant. C'était pour moi une rencontre absolument essentielle, quoi. Et puis j'ai toujours sa voix dans les oreilles. C'est-à-dire que quand j'arrivais chez lui, je sonnais et il ouvrait la porte. Et sa phrase rituelle depuis toujours, c'était « Alors comment ça va, mon vieux ?» Donc à la fin, il avait 99 ans, quoi. Puis il a vu grandir la gamine. Enfin bon, tout ça, c'était vraiment une...
Votre fille.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, vous écrivez ce sont des textes, en fait, de fiction que vous écrivez dans ces recueils de photographies.
C'est une demande que j'ai faite à Willy. Je lui ai dit, moi, il est hors de question que je commande tes photos, que je les élucide et tout. C'est absolument des photos qui suffisent totalement. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que tu accepterais que je prenne un de tes personnages que tu as photographié et que j'en fasse mon personnage et que je le balade à travers tes autres photos? Et donc, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois, je trouvais un regard ou une attitude sur une photo, et c'est ce regard-là, cette attitude que j'utilisais comme personnage principal et que je faisais, et je lui faisais traverser les miroirs des photos de Willy. Il a accepté ça, il a accepté ce jeu-là. Sinon, j'aurais été incapable d'écrire un mot de commentaire sur ces photos.
Et dans les textes que vous avez écrits dans ces recueils de photographies, vous insistez aussi justement beaucoup dans votre écriture sur les sensations, peut-être encore davantage que dans certains de vos autres textes, justement tout ce que la photographie évoque mais ne fait pas forcément ressentir, donc les odeurs, le toucher, ça c'était vraiment quelque chose de conscient de travailler là-dessus.
Complètement, parce que c'est le résultat des conversations avec Willy Ronis, c'est-à-dire que Willy Ronis, c'est absolument incroyable. Il vous montrait une photo de 1947. Il vous disait le temps qu'il fait, s'il y avait du vent, à un certain moment non, les ombres. Et donc il vous parlait de manière extrêmement sensuelle, sensitive de ça, et avec une mémoire absolument considérable. J'ai jamais pris en défaut, hein, sur ça. Sur une des photos que je préfère parmi 2000 ou 3000, il y a la péniche aux enfants. C'est absolument incroyable. Moi, il m'a sorti la planche contact et il m'a raconté comment ça s'est passé. Et on voit avec les planches contact qu'il raconte exactement ce qui s'est passé, quoi. La manière dont il voit arriver un train de péniche qui est avalé par l'ombre du pont de Paris sur lequel il est. Il voit trois gamins dans le fond de la péniche, vide comme ça, et il court à toute vitesse de l'autre côté et il prend en une fraction de seconde, sans cadrer, rien du tout, une photo pour essayer d'avoir ses mômes en train de jouer au fond de la péniche comme ça, et il suffit d'aller voir la photo, quoi. Il y a ce train de péniche, il y a l'église, il y a la Seine, il y a le mouvement du train de péniche qui fait une courbe comme ça, et vous avez trois enfants dont un qui est sur un tricycle récupéré en ferraille comme ça et qui lève les yeux vers le photographe. C'est un miracle, un miracle, et vous voyez que le miracle a eu lieu avec la planche contact.
Alors, Didier Deninx, autre type de collaboration qui montre que vous faites vivre vos histoires et l'histoire à travers divers supports et à l'aide de divers supports, les collaborations avec les auteurs, les dessinateurs de bandes dessinées ou qui ont adapté certaines de vos œuvres, que ce soit donc Mako ou Tardi. Alors comment avez-vous travaillé avec ces dessinateurs-là?
Tardi, il avait lu Le Derdéder à sa parution, et 10 ans après, il a eu assez de temps devant lui pour réaliser. Et il a fait... On a discuté pendant quelques rencontres comme ça sur les principes d'adaptation. Il aurait fallu 300 pages pour que le livre soit totalement adapté. Donc il fallait privilégier une histoire. Donc on s'est décidé de cette manière. Et à partir de là, c'est lui qui a fait une adaptation page par page. Donc, et ensuite, ça a été un travail. Alors il n'existait pas Internet, il y avait les fax. Tous les matins, pendant des mois, à 8 heures, le fax se mettait en route et j'avais des crayonnés de Tardi qui arrivaient. Il me proposait 5 ou 6 personnages différents pour un même personnage et tout, en me demandant de choisir. Donc j'ai choisi, j'avais un catalogue Manu France qui m'arrivait dessiné par Tardi, qui m'arrivait en fax, et je choisissais les voitures, enfin bon, j'ai toute une série de choses. Et une fois que j'avais bien regardé, je lui téléphonais, puis on a avancé de cette manière-là, puis de temps en temps on se rencontrait pour faire le point comme ça chez lui. Donc voilà, ça s'est passé de manière extrêmement tranquille, avec quelque chose de très agréable pour moi, c'est-à-dire que entre les fax et puis le coup de téléphone à 9h, j'avais l'impression que j'avais fait ma journée, quoi. Donc, c'était extraordinaire, quoi. C'était une période. Avec Mako, c'est totalement différent. Avec Mako, c'est souvent des scénarios originaux. Donc, j'écris une sorte de nouvelle d'une trentaine de pages, mais extrêmement, séquencée. Et il a besoin de cette liberté pour déployer comme ça. Si jamais je lui donnais des choses case par case ou page par page, ça l'emprisonnerait. Et donc il a besoin de cette liberté. Et une fois qu'il a fait ça, là c'est pareil, je reçois des choses sur Internet et puis je place le texte avant que l'ancrage. Donc, et puis j'ai travaillé avec pour les romans calédoniens avec Emmanuel Reuset, qui lui a fait totalement l'adaptation et tout. Là, on a discuté, il m'a montré des planches et j'avais une confiance totale en lui. Et puis le résultat est vraiment très 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 satisfaisant pour moi, quoi, pour Cannibal et le Retour d'Ataï. Mais à chaque fois, c'est un couple qui se forme, donc faut véritablement se comprendre comme ça, accepter les méthodes de travail de l'autre et tout. Donc jusqu'à maintenant, ça c'est très très bien passé avec tous.
Merci beaucoup Didier Denynx pour tous ces entretiens et ce temps qu'on a passé ensemble. Merci.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Delphine Jaffé avec Didier Denynx à Voix Nue. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent Lucas, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant 1 an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.
Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Didier Denynx dans un feuilleton réalisé par Jean-Mathieu Zande.
Pages arrachées à Didier Deninx. Texte choisi par Sylvie Balul. Aujourd'hui, extrait de la nouvelle La Queen des Kings, paru en 2009.
I pick you up early from the school gates at 3:30.
Eugénie avait passé le peignoir blanc du Thermae Palace sur ses vêtements. Puis, en s'aidant de son déambulateur, elle était allée fumer une cigarette sur la terrasse, le temps que la femme de chambre range la suite qu'elle occupait depuis plus d'un an au troisième étage de l'hôtel. Il pleuvait sur Ostende, comme les deux jours précédents. Mais le vent était tombé et des nuages lourds stagnaient au-dessus d'une mer qui ne cessait d'inventer des nuances au gris. Des couples de fin de saison arpentaient la promenade, un pouce sur le bouton de la laisse rétractable, pour mesurer la liberté de gambader du caniche ou du bichon. Au loin, sur la ligne incertaine où se mariaient le ciel et l'eau, un cargo, hérissé de cheminées, de radars, alourdi par les conteneurs multicolores empilés sur le pont, prenait la direction de l'Angleterre. Des images furtives de son dernier voyage à Londres, 40 ans plus tôt, dansèrent devant ses yeux, se mêlant aux volutes de fumée. Elle se revit chez Biba, sur Kensington High Street, entourée de filles longilignes, occupées à dénicher sur les portiques la mini-jupe idéale qui accompagnerait l'envolée interminable de leurs jambes. Les hamburgers, les sodas et la pilule, disait-on, avaient effacé à jamais ces silhouettes aériennes de Soho, de Piccadilly Circus. Et preuve que l'Europe était entrée dans les mœurs, on ne distinguait plus aujourd'hui une Anglaise d'une Flamande. Leur corps parlait la même langue. Eugénie tendit un billet de 10 € à l'employé avant de se diriger vers la salle de bain. Luc ne tarderait plus, et elle mettait un point d'honneur à se mettre en valeur pour sa visite hebdomadaire, ressortant de l'armoire les fards, les crèmes, les fonds de teint, le mascara, les bâtons de rouge à lèvres, les fioles de chez Guerlain. Une fois le visage rajeuni, elle fit glisser les portes de la penderie et choisit un tailleur gris qu'elle assortit à un chemisier de soie orangé. Elle aimait par-dessus tout ce regard amusé qui glissait le long de son corps en détaillant toutes les attentions qui s'offraient. Puis elle s'allongeait sur le divan et les mains de Luc se portaient sur elle. Par les vitres embuées du tram, Luc Van Aert observa l'envol de 3 mouettes au-dessus des baraques de plage. Puis il reprit sa lecture. Si vous sortez de Morlanwelz par la route des ateliers, c'est-à-dire en contournant la gare, vous montez vers Chapelle, à mi-chemin, juste en face de l'arrêt du tram de Sainte-Henriette et tout près de l'ancien kiosque de l'Harmonie, il y a un chemin de terre. Il sourit en rencontrant le mot « tram », alors qu'il se trouvait justement dedans, et referma la rue des Italiens quand il aperçut les tribunes de l'hippodrome de Wellington. Il releva le col de sa veste à cause du crachin et longea l'interminable façade néoclassique de l'hôtel. Il s'arrêta un instant dans le hall pour échanger quelques mots avec le voiturier qui s'intéressait d'assez près aux accouchements aquatiques, sa jeune femme étant enceinte de 3 mois. Puis il se dirigea vers l'escalier. Cela faisait plus de 6 mois qu'il rejoignait Eugénie Bourdier chaque mardi après-midi dans sa suite du Thermae Palace. Et s'il connaissait maintenant la plupart des employés qui assuraient les rotations à l'accueil, la plus bavarde était sans conteste Margotte. Cette petite rousse, originaire de Knokkelzout, où ses parents tenaient une friture, passait la mope dans les couloirs. C'est elle qui avait vanté la fiabilité des naissances dans l'eau auprès du voiturier. Il arrivait à Luc de l'inviter, après son service, à prendre un café en grignotant des spéculoos. Quand il faisait beau, il s'installait à la terrasse de l'Uhlenspiegel, d'où l'on voyait se profiler le casino. Un jour, alors qu'elle évoquait les manies de la seule cliente permanente du Thermae, elle l'avait appelée Astrid au lieu d'Eugénie. Quand Luc le lui avait fait remarquer, ses joues s'étaient empourprées. Il l'avait poussée dans ses retranchements jusqu'à ce qu'elle lui confie ce qu'elle avait appris d'un directeur adjoint qui poussait la conscience professionnelle jusqu'à tester la literie des chambres vacantes. D'après ses confidences, Eugénie Bourdier aurait connu une gloire aussi bruyante qu'éphémère en France, 4 décennies plus tôt, sous le pseudonyme d'Astrid Follet. Luc fut contraint d'avouer son ignorance, cet alias n'évoquant rien pour lui. Il la questionna, mais Margot savait simplement qu'elle avait publié 2 livres scandaleux dans l'effervescence des années 68. De retour dans son appartement de la Peterslane, près du Petit Paris, il avait pianoté le nom d'emprunt sur son ordinateur. La notice de Wikipédia se résumait à quelques lignes. Astrid Follet, née à Main-sur-Loire le 12 février 1938. Études secondaires à Notre-Dame de Sion, Paris. Actrice dans les films de Jean-François Davy, Le Désir, Beurre de 30 barrets, Possession, Noël Simsolo, Cauchemar. Elle publie son premier livre, Les Éducastreuses, en 1969, chez Itinéraire Libre, rencontrant un important succès dont ne bénéficiera pas son second ouvrage, La Queen des Kings, La Reine des Pervers, dans lequel elle relate ses aventures amoureuses avec Raymond Davis, le chef de file du célèbre groupe de rock Les Kings, Sunny Afternoon. S'installe à Londres où elle ouvre une boutique de mode. Luc posa sa sacoche à ses pieds pour ajuster son col de chemise et discipliner ses cheveux avant de frapper à la porte de la suite. Il suivit la progression d'Eugénie au chuintement des pastilles de caoutchouc du déambulateur sur le sol carrelé de l'entrée. Elle ouvrit, enveloppée d'un nuage d'iris et de vanille qu'il respira profondément en fermant les yeux. Chalimard. Un parfum créé pour une princesse et porté par une déesse. Elle inclina la tête sur son épaule et laissa fuser un petit rire. « Vous ne croyez pas que vous en faites un peu trop ?»«
Je pense au contraire qu'on n'en fait jamais assez pour les gens que l'on aime. »« La semaine s'est bien passée ? Vous avez fait vos exercices en piscine, comme je vous l'avais demandé ? Et l'appétit ?»
Eugénie éluda les 2 dernières questions.
2 crises seulement, vendredi et dimanche. Et encore, je suis sûr que c'est à cause du froid. Les pièces étaient glacées, l'humidité s'installe et ça vous bloque les articulations. Il a fallu que je demande 10 fois avant qu'on branche un radiateur.
Allongez-vous sur le divan et relevez votre manche. Je vais prendre votre tension.
Il avait fait sa connaissance au début du mois de mai précédent, une des premières vraies journées de printemps. Coiffé d'une casquette blanche à longue visière, il lisait sur la plage en prenant le soleil, adossé au soubassement d'une buvette en cours de montage qui le protégeait du vent. Un polar nordique. Des cris l'avaient soudainement arraché aux réflexions métaphysiques d'un enquêteur scandinave. Il s'était précipité. Une vieille femme d'une incroyable minceur gisait sur l'allée cimentée menant au Thermae Palace. Il avait écarté les badauds, mettant en avant sa condition de médecin, et s'était agenouillé près de l'inconnu pour procéder à un rapide examen.
« Mon pied a buté. Je n'ai pas vu la marche. »
Il s'abstint de lui faire remarquer que l'allée était dans l'exacte continuité du sol, qu'il n'y avait pas de marche. Puis, après s'être assuré qu'aucun os n'était brisé, il la fit transporter dans la suite dont elle lui avait donné le numéro. Il était resté près d'elle pour la rassurer et lui posait une série de questions d'apparence anodine, tirant de ses observations un premier diagnostic. Elle avait été victime d'un malaise et, d'évidence, le responsable en était le traitement qu'elle imposait à son corps. Les conversations avec le personnel de l'hôtel ne firent que le confirmer. Madame Eugénie, comme il l'appelait, ne descendait pratiquement jamais au restaurant, préférant se faire servir ses repas dans sa chambre, des portions réduites au minimum, auxquelles elle ne touchait pour ainsi dire pas. Bien qu'il se soit consacré à la médecine enfantine, Luc Van Aert se souvenait des effets induits par un contrôle excessif du poids, notamment chez les personnes âgées. atrophie des muscles, malaise, perte de connaissance, chute des cheveux, décalcification, ostéoporose, sans même parler des difficultés relationnelles provoquées par le repli sur soi. Quand il voulut lui remettre une lettre à destination de son médecin traitant, Eugénie Bourdier lui avoua qu'elle n'en avait pas à Ostende, tout simplement parce que depuis son arrivée dans la ville, elle n'avait jamais eu besoin de faire appel à un docteur. « Il faudrait peut-être penser à en choisir un !» Elle l'avait regardé depuis le divan où elle était allongée.
« Pourquoi pas vous? Vous seriez d'accord ?»«
Ah, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. J'étais là par hasard. Je travaille à la maternité de l'hôpital public Henri Serruys. Ce n'est pas la même branche. »«
Une maternité? Et qu'est-ce que vous y faites ?»«
Je forme les sages-femmes aux techniques de l'accouchement aquatique. » Elle s'était redressée et le fixait en écarquillant les yeux.
« Vous voulez dire que des femmes enfantent dans l'eau ?»«
Bien sûr. Le mois dernier, on a fêté la 5000e naissance. On détient le record mondial. Ça se passe dans une sorte de grand jacuzzi transparent pour que nous puissions suivre le travail. L'eau est maintenue à 37 degrés Celsius, la chaleur du corps humain. Et le nouveau-né arrive dans un environnement semblable à celui qu'il a connu durant les 9 premiers mois de son existence. Si ça vous intéresse, quand vous irez mieux, vous pourrez venir à la clinique, assister aux exercices des futures mères dans la piscine. » Elle avait mis les mains en avant, comme pour se protéger de la proposition qu'il venait de faire, lançant dans un souffle
« Rien que l'image de ces corps difformes !»
avant de se reprendre
« J'aime les enfants !» bien que je n'en ai jamais su. Je ne me voyais pas doubler de volume.
Tous deux n'avaient plus jamais évoqué le sujet au cours des visites hebdomadaires que Luc continuait à rendre à sa patiente. Tout l'été, Eugénie s'était entichée d'Elena Blavatsky, une autre femme recluse à Ostende au milieu des années 1880, après avoir, comme elle, trouvé un temps un refuge à Londres. Elle avait jeté son dévolu sur la doctrine secrète, un ouvrage écrit face à la Bad Platz, dans lequel Elena Blavatsky synthétisait tout ce qu'elle avait appris lors d'incessants voyages au contact des sorciers baoulés, des rebouteux caucasiens, des chamans mongols, des lamas tibétains, des yogis hindous, des spirites égyptiens, des médiums russes, des nécromanciens perses, des psychopompes amérindiens, des devins catalans, des pneumatologues celtes, des tourneurs de table bretons et des vaudouistes haïtiens. Il avait suffi à Luc de lire les premières pages du livre, où il était expliqué qu'il tenait entre ses mains la traduction et le commentaire d'un livre inconnu transmis dans une langue inconnue, pour émettre les plus grands doutes sur la théorie des races racines développée par la voyageuse.
Cela n'a pas empêché le poète Yeats, le romancier Lovecraft et le Mahatma Gandhi d'exprimer leur enthousiasme pour son travail.
Il n'avait rien trouvé sur le moment à opposer à d'aussi illustres admirateurs. Le hasard était venu à son secours au début du mois d'août, alors qu'il flânait aux alentours du parc Léopold entre deux averses. Il était entré sans but précis dans une brocante de la rue Spilliart. La saison s'y prêtant, la boutique proposait une exposition de cheminées en céramique, décors flamands, alsaciens, néerlandais ou allemands. Il avait préféré passer dans la pièce réservée aux livres, aux imprimés. Et c'est en fouillant dans une caisse emplie de cartes postales anciennes qu'il était tombé sur une photo d'Elena Blavatsky. Le cliché avait été pris lors de son séjour à Ostende, dont on apercevait le port par la baie vitrée de la salle où était installé l'écrivain. Elle se tenait près d'une table recouverte d'une dentelle, engoncée plutôt qu'assise, dans un fauteuil massif, la tête calée par un coussin à franges. Elle regardait le photographe avec étonnement, comme si on venait de l'interrompre dans la lecture du manuscrit posé sur ses genoux. Le brocanteur s'était approché.
« C'est un document assez rare. Vous savez de qui il s'agit ?»«
Oui, HPB. » Elena Petrovna Blavatsky. J'ai lu la doctrine secrète.
On doit être deux dans cette ville.
Trois. Il avait souri.
Certains prétendent qu'elle se serait largement inspirée du livre de Dziane. La prise de vue a été réalisée quelques mois avant son départ pour l'Angleterre. Elle était devenue impotente. Elle souffrait d'hydropysie. Là, elle pesait déjà près de 120 kilos.
Il l'avait cédée pour le dixième du poids, 12 euros. Le mardi suivant, jouant les ingénus, Luc Van Aert avait offert la photo à Eugénie. Ses doigts décharnés s'étaient agacés sur le rabat de l'enveloppe qu'un ongle avait enfin réussi à soulever. Un silence glacé avait succédé à la fébrilité de la vieille femme. Un coup d'œil au cliché, un autre tout aussi froid sur le donateur. Le cadeau avait immédiatement rejoint le cimetière d'un tiroir. Il n'avait plus jamais évoqué Elena Blavatsky ni son œuvre. La révélation de la surcharge pondérale de l'idole avait eu raison de l'autorité du poète, du romancier et du mahatma. Leur première et unique dispute avait éclaté à la mi-décembre alors que l'on installait des guirlandes de lumière le long des rues et que des Pères Noël en plastique escaladaient les façades. Luc était entré dans l'appartement du Thermae Palace en sifflotant mécaniquement un air qu'il avait entendu en longeant la Königin Astrid Lane. And I love to live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. Eugénie avait traversé le salon à toute vitesse, au risque de démantibuler son déambulateur.
Pourquoi sifflez-vous cette chanson?
Il n'avait pas pu répondre dans l'instant. Sa conversation avec Margot, l'employée du Thermae Palace, lui revenant en mémoire au même moment.
Quelle chanson?
Je ne suis pas idiote. C'est Sunny Afternoon, le plus grand succès des Kinks. Si vous savez qui je suis, pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi continuer à jouer la comédie? Vous ne valez pas mieux que les autres. Plus malin, plus patient peut-être. Qu'est-ce que vous cherchez, hein?
Luc avait reculé devant l'assaut. Son dos heurta la baie vitrée.
Rien, je ne cherche rien. J'ai simplement repris un air qu'on jouait dans la rue. Moi, ce n'est pas la Brabansonne ni le Vlaamseluf qui me font vibrer, mais les rocks des années 60. Quand ça rentre par une oreille, ça ne ressort pas par l'autre.
Il se rendit compte qu'elle était devenue hermétique à toute forme d'humour.
Vous avez lu mes livres? Ça vous a plu de regarder par le trou de la serrure?
Non, je n'ai même pas essayé de me les procurer.
Qu'est-ce qui vous a le plus excité? Les passages avec Ray Davies? Avec son frère Dave? Avec Mick Avory, le batteur des Stones? À moins que ce soit ceux avec Peter Quaife. Alors?
Je me fiche de ce qui s'est passé il y a 40 ans, je regarde vers l'avenir.
Vous osez me parler d'avenir? Dans l'état où je suis? L'avenir, c'est infini, ça ne se compte pas en jours. Je vais vous dire à quoi se résume l'avenir pour des gens comme vous. À ce que vous pourrez tirer d'une vieille folle qui vit à l'année dans un palace?
L'injure avait cloué Luc sur place.
Vous n'avez pas le droit de tout salir. Ne soyez pas injuste. Le hasard m'a placé sur votre chemin. Mon métier, c'est de donner la vie. Avec vous, je donne un peu de la mienne. Voilà tout.
Il avait pris la porte quand elle s'était mise à crier pour couvrir ses paroles. Il s'était bouché les oreilles alors qu'il descendait les escaliers pour ne plus entendre l'air qui continuait à résonner dans sa tête. Il avait marché le long du rivage, droit devant lui, pendant une heure, à contre-vent, pour finir par s'accouder à un bar de la Lange Straße. Plus loin, des jeunes mangeaient du poisson frit sous l'auvent d'une gargote. Un type, plein de bière, était venu choquer son verre contre le sien.
« Tu n'es pas d'Ostende, toi ?»«
Non, je suis d'Anvers. À quoi tu vois ça ?»«
Tu ne bois pas à la mesure de ce que t'es triste. »
La formule l'avait amusé et il avait demandé au barman de refaire le niveau à la pression. Luc avait croisé le regard vitreux.
C'est une histoire de bonne femme ?
Oui, mais pas au sens où tu l'entends. Disons qu'on était amis. Le pochard s'était largement mouillé les lèvres avant de répondre.
Avec les femmes, amour ou amitié, on est toujours perdant. Quand il y en a un qui s'en sort, il y en a 10 qui plongent.
Au large, sur une barge illuminée comme un sapin de Noël, on distinguait les silhouettes des ouvriers qui draguaient le chenal sous la bruine pour éviter l'ensablement. Les projecteurs éclaboussaient le jaune des uniformes en plastique, éparpillant les reflets au creux des vagues. Il releva son col de veste, et le vent hurlant à ses oreilles, il prit la direction de la place du marché. Perdu dans ses pensées, il entendit au dernier moment le crissement du caoutchouc sur les pavés, un bruit qui, dans son esprit, se mit à accompagner le chuintement du déambulateur sur le carrelage de la suite. La dernière image qui s'imposa à lui, quand la voiture le percuta, fut celle d'une série de valises sombres posées par ordre de grandeur derrière les vitres d'un rez-de-chaussée. Le bleu vert de la pierre, la peinture écaillée, le marron du cuir, l'éclat des ferrures. Puis il avait sombré dans le néant. Six mois plus tard, à peine sorti de la clinique bruxelloise où son corps avait dû réapprendre les automatismes de la vie, Luc Van Aert avait réservé sa première visite aux plages sans fin d'Ostende. Il lui faudrait encore être patient avant de reprendre sa place à la piscine d'accouchement. Son cœur s'était mis à battre quand l'imposante façade néoclassique du Thermae Palace avait remplacé l'horizon. Un employé qu'il ne connaissait pas travaillait devant l'ordinateur à la réception. Vous pouvez me dire si Madame Eugénie Bourdier est toujours chez vous ? Il avait consulté son écran.
Bourdier, Bourdier. Désolé, monsieur, nous n'avons personne de ce nom dans notre hôtel.
Alors qu'il traversait le hall en direction de la promenade, il avait croisé le directeur adjoint. Celui qui faisait des confidences à Margotte, la petite rousse, dans les chambres inoccupées.
« Monsieur Van Aert, je suis heureux de vous revoir. Nous avons cherché à vous joindre quand Madame Bourdier est tombée malade. Elle vous réclamait. »
Il lui raconta, en prenant soin de choisir ses mots un à un, qu'elle l'avait attendu chaque mardi en se laissant doucement aller à la mélancolie.
Elle ne mangeait pratiquement plus. Et à la fin, elle ne prenait même plus la précaution de faire disparaître ses repas dans les toilettes. Elle est morte à la fin du mois de janvier. Dans sa chambre, nous avons trouvé une lettre qui vous était destinée. Si vous avez un moment, je vais aller la chercher.
Luc la décacheta face à la mer du Nord. Une photo venue du passé. Sur les traits d'Eugénie affleurait le sourire d'Astrid Follet, le double qu'elle s'était inventé. Il reconnut les frères Davis, Mick Avory, l'ancien batteur des Stones, et John Lennon de profil. La Queen des Kings. Des notes de musique flottaient dans le vent venu d'Angleterre.
All the taxpayers taken all my dough, left me in my stately home, lazing on a sunny afternoon.
C'était Pages arrachées à Didier Denax. Extrait de La Queen des Kings. Dit par Gabriel Dufay. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Emmanuel Arming, Alice Cachaner, Jean-Mathieu Zande. La Queen des Kings est publiée aux éditions Le Bec en l'air, dans le recueil Ostende au bout de l'Est.
Thank you.
C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures. Toute cette semaine, Didier Deninx. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et tout de suite, nous retrouvons la chronique de Christophe André, 3 minutes à méditer.